Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré aux questions posées par la simulation en santé. Dans le domaine de la santé, la rencontre avec le patient constitue une épreuve importante pour tout praticien. Rencontrer le patient, mais aussi l'ausculter, ou pratiquer des gestes techniques sur son corps, marque un moment incontournable dans la pratique soignante. Ce moment est habité par ce qui a été transmis au cours de la formation, un ensemble de connaissances que tout soignant doit s'approprier, mais ce moment constitue surtout un passage de la théorie à l'acte sur le patient. Comment apprendre à soigner? Est-ce que les connaissances théoriques suffisent à apprendre à soigner? Comment pratiquer un geste de soin pour la première fois? Mener un entretien pour la première fois? Un examen clinique pour la première fois? Ou même faire une annonce de maladie grave ou de décès pour la première fois? Doit-on faire confiance au bon sens de la pratique et se dire que cette première fois sera un baptême du feu pour le praticien? Doit-on supposer qu'avec le temps et la répétition des expériences, le soignant saura forcément comment faire? Ou doit-on accompagner les soignants dans cet apprentissage et dans ce cas, comment le faire? En 2015, un scandale a éclaté à l'hôpital universitaire de Lyon. Des étudiants en médecine, sous la guidance de leur formateur, s'exercer au toucher vaginal au bloc opératoire sur des patientes endormies prêtes à subir une opération chirurgicale. Sans aborder la très importante question du consentement du patient, on peut voir émerger dans cette situation terrible une autre question, celle de la manière de former les soignants. Peut-on accepter d'imposer aux patients de subir les premiers gestes de futurs soignants, le prenant en quelque sorte pour cobaye de la formation ? La simulation en santé vient directement répondre à ces questions. Elle propose une première fois qui épargne le patient en proposant de le remplacer par un patient simulé. Pour comprendre quels sont les intérêts mais aussi les modalités et les applications de la simulation en santé, j'accueille aujourd'hui Sébastien Coiraz. Sébastien Coiraz est maître de conférence en sciences infirmières, spécialiste de la simulation en santé à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Corinne Gruel est cadre de santé formatrice en institut de formation aux soins infirmiers. Pierre Roda est lui aussi formateur au pôle régional d'enseignement et de formation au métier de la santé. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour, Flora.
Vous intervenez tous les trois dans l'Institut toulousain de simulation en santé, l'ITSIMS, qui est intégré au CHU de Toulouse. Ce centre de simulation en santé a ouvert ses portes en 2012. Donc je commence par une question très simple. C'est quoi la simulation en santé? Pourquoi on ouvre ce type de centre?
Je vais commencer peut-être. La simulation en santé, c'est un dispositif pédagogique qui permet de recréer un environnement et des conditions de travail qui ressemblent à un environnement et des conditions de travail classiques. Mais l'énorme avantage, contrairement à la pratique clinique, c'est qu'on peut calibrer ce qui va se passer au moment de la formation. Il y a différentes modalités de simulation. On peut apprendre un geste technique, on peut apprendre le travail en équipe, mais aussi on peut développer des compétences dites non techniques, c'est-à-dire plutôt des compétences communicationnelles, relationnelles, attitudinales, voilà.
Peut-être juste rajouter une précision, c'est que vous évoquiez l'ITSIM, mais il y a des dispositifs, en tout cas sur le site de l'Institut de formation en soins infirmiers, bien moins sophistiqués, qui sont aussi de la simulation avec l'apprentissage des premiers gestes techniques dès le début de la formation, sur un bras, sur un buste, voilà, des choses qui sont un peu plus artisanales, j'ai presque envie de dire.
Ce qu'il y a finalement d'un peu étonnant avec la simulation, c'est qu'on en fait depuis des années et que les gens finalement reprennent goût à la fois à cet exercice, et ce qui change, ça va être les modalités de débriefing qui vont permettre en fait de fixer les apprentissages. C'est bien là la grosse innovation, c'est surtout en lien avec le débriefing.
Et alors, est-ce que la simulation en santé concerne principalement les soignants qui sont en formation?
Alors, est-ce que ça concerne la formation continue ou la formation initiale? Alors, en fait, ça concerne tous les soignants. Voilà, de manière très générale et très générique, la simulation concerne à la fois la formation initiale pour développer un minimum de compétences et par rapport à ce qui a été dit sur le fait que les patients ne sont pas des cobayes, ben effectivement, il y aura quand même toujours une première fois sur le patient. Mais par contre, la transposition didactique qu'il va y avoir entre la phase de formation et la mise en œuvre en pratique clinique, ben, il y aura un gap qui sera moindre que si effectivement on fait directement une première fois sur le patient. Donc ça, c'est de la formation initiale. Mais ça concerne également la formation continue, puisque un des intérêts de la pratique simulée, c'est de confronter les gens à des situations rares ou critiques. Donc si on prend par exemple en anesthésie réanimation, il y a un incident en anesthésie qu'on appelle l'hyperthermie maligne. Bon, peu importe exactement ce que c'est, mais ce que nous dit la littérature, c'est que les gens, ils seront confrontés au mieux, alors que c'est un incident, hein, mais les gens, ils seront confrontés au mieux une fois dans leur carrière. Et donc, comment on fait pour être performant dans cette situation critique où réellement le pronostic vital du patient va être mis en jeu si on ne s'y exerce qu'une seule fois, finalement, en formation initiale. Mmh. Donc, la simulation, c'est aussi la formation continue pour répliquer l'activité pour que ça rentre dans les habitudes des praticiens.
Mmh. Avec peut-être une différence, c'est qu'en formation initiale, c'est nous, formateurs, qui décidons de ce qui nous paraît être les besoins des jeunes apprenants. Et donc, nous considérons que notre dispositif, il est d'une certaine manière obligatoire pour chacun d'eux, alors qu'en formation continue, les professionnels, donc globalement médecins, jeunes médecins, infirmiers, aides-soignants, peuvent, eux, exprimer leurs besoins et considérer que c'est dans tel ou tel champ qu'ils veulent monter en compétences.
Mmh. Est-ce que ça arrive que ce ne soit pas eux qui le souhaitent, par exemple, imaginons des praticiens, des soignants qui sont en exercice. Est-ce que ça arrive qu'on leur impose finalement de faire une séance de simulation pour une raison de formation ou pour répondre à un besoin particulier?
Alors complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire pour la formation continue des soignants. On en est au DPC 2. Et effectivement, il y a des thématiques avec un plan quinquennal. Et donc, les gens doivent suivre ces formations continues. On a aussi des gens qui viennent. Et je me rappelle d'un exemple où le soignant avait dit « Mais moi, en fait, c'est ma cadre qui m'a inscrit et je ne souhaite pas venir. » Bon, donc après, ben, on arrive quand même à mettre les gens dans une posture un petit peu plus enclin pour rester avec nous la journée et ça se passe très bien.
Donc, pour peut-être aborder la chose plus directement, est-ce que vous pourriez me dire comment se déroule une session type? Alors, peut-être qu'il n'y a pas de session type, mais vous allez me dire. En simulation, qu'est-ce que vous faites ?
Il y a quand même des grandes lignes en termes d'organisation et de structure du dispositif pédagogique. Il y a d'abord clairement un moment qu'on appelle le pré-briefing où il va falloir expliquer un petit peu ce qu'est la simulation parce que les gens, ils ont l'impression qu'ils vont être évalués, qu'ils vont jouer soit leur formation quand c'est de la formation initiale ou leur poste. Et oui. Quand les gens sont en formation continue. Oui. Et en formation continue, on n'a pas l'habitude, on perd cette habitude d'avoir un tiers qui vient regarder un petit peu ce qu'on fait quand on est dans la chambre avec un usager. Donc il faut vraiment expliquer ce qui va se passer, ce d'autant qu'il y a des micros, des caméras, et il faut leur dire que ce n'est pas le loft, mais que c'est vraiment pour tout le dispositif est monté pour le bien de la formation et la professionnalisation. Donc ce temps de pré-briefing, il est vraiment très important pour expliquer ce qu'est la simulation et également pour expliquer ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire qu'on a des mannequins à haute technologie. Pour autant, il y a des choses qui ne font pas. C'est-à-dire les changements de coloration des téguments, le changement de la couleur de la peau en fonction de la quantité d'oxygène dans le sang, par exemple, ou en fonction du volume de sang perdu, des choses comme ça. Mm-hmm. Ça, le mannequin, en fait, c'est pas très bien fait sur un plan technologique, même si, encore une fois, ce que je dis demain ne sera plus vrai, parce qu'il y a quand même une avancée technologique majeure. Mais il faut leur expliquer. Il y a y a des choses aussi qu'on peut faire ou ne pas faire sur les mannequins, si on utilise un mannequin, mais il y a des choses qu'on peut ou ne pas faire quand on utilise un patient standardisé avec un acteur. Bon, là, il y a carrément des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà. Donc, on peut utiliser du matériel prothétique, par exemple, pour faire de la simulation hybride, c'est-à-dire on va jouer la relation avec le patient, mais cette relation, elle va être contextualisée autour d'un geste technique. Voilà. Et donc, on met une prothèse pour que le geste technique soit réalisé, pour apprendre aux gens à combiner les deux. À la fois le geste technique, mais il faut que je parle aux gens quand même, hein, ça paraît tout bête, mais il faut parler aux gens et leur expliciter un petit peu les gestes qu'on leur fait. Donc ça, c'est le pré-briefing. Après, il y a aussi le fait de vraiment montrer aux gens, il faut pas qu'ils aient l'impression qu'on leur cache des choses. Donc on va aller dans la salle de simulation, on va tout montrer, on va ouvrir les tiroirs, parce que même si on est sur de la simulation pleine échelle qui reproduit ou qui tend à reproduire à l'identique un environnement de travail, ça n'est quand même pas la vraie chambre du patient où les gens ont l'habitude de travailler, encore moins quand c'est des étudiants qui passent de stage en stage et qui doivent s'adapter en permanence.
Donc si je comprends bien, tout ça c'est une phase de présentation en fait du dispositif, des locaux, de ce qui va être mis à disposition aux participants, c'est bien ça ?
Complètement.
D'accord.
Oui, et de transparence dans les enjeux, dans ce qui va se passer du point de vue des étudiants ou des professionnels et du point de vue de l'animateur ou du formateur. Il me semble que, mais probablement que tu allais l'évoquer, mais ce qui est fondamental, c'est la question de la posture éthique de celui qui va animer ces sessions, quoi.
Puis oui, il y a une forme aussi de cadre sécuritaire pour les étudiants qui vont participer à cette séquence de simulation où voilà, on met en avant des principes éthiques tels que la confidentialité, le respect de l'anonymat. Donc voilà, c'est important.
Oui, ça c'est rappelé dès le début.
Oui.
Ok,
oui.
Donc il y a toute cette phase d'explication, de présentation et ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Donc l'étape d'après, on va expliciter, on peut rappeler ce que sont les objectifs pédagogique, hein. On rappelle le ici et maintenant, puisque l'objectif de la simulation c'est créer de la matière en fait à discussion pour le débriefing qui va s'opérer après la séquence. Et donc après il y a ce qu'on appelle l'étape de briefing, c'est-à-dire on va dire où est-ce qu'on se trouve, quels sont finalement les éléments qu'a besoin un praticien avant de rentrer dans la séance de simulation, à qui il va avoir affaire, dans quelle structure je suis. On imagine bien que c'est pas tout à fait la même chose si on est dans un EHPAD à 23h un dimanche soir, aussi on est à 10h du matin au déchocage de Purpan. Donc voilà, en termes de ressources, de ce que les gens vont pouvoir faire, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on fait ce briefing, puis après il y a l'étape de simulation à proprement parler. On essaye de faire des séances entre 15, 20, 30 minutes grand maximum, parce que les gens, même si on y met toute la bienveillance et qu'on enrobe les choses, ils sont quand même particulièrement stressé pendant les séances de simulation, et donc c'est important de ne pas les laisser dans la cocotte minute trop longtemps.
Ouais. Voilà.
Et de le leur dire, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai pas l'expérience avec des professionnels aguerris, moi j'ai eu l'expérience avec des formations initiales, hein, donc c'est bien sûr pas le même profil. Nous on a des petits groupes, mais il y a en général un ou deux étudiants qui sont concernés, donc les autres sont présents dans la pièce et sont donc observateurs, ce qui peut aussi majorer le niveau d'insécurité des étudiants, voilà, qui sont concernés. Et ça, c'est important de le dire à chacun d'eux. C'est-à-dire que la question de l'évaluation, elle n'est pas là, elle n'est pas en question. Il y a quelque chose qui va se jouer entre eux et eux. Mmh. Et en général, ils sont bien en capacité de dire là où ils ont été performants et là où ils trouvent qu'eux, de leur place, hein, ils trouvent que probablement ils peuvent encore monter en compétences. Mais ça, c'est important vraiment de le leur clarifier et de leur dire qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent et qu'on n'est pas en train de leur dire il faut absolument que ce soit un quart d'heure ou demi-heure, parce que parfois c'est très compliqué pour ceux qui s'exposent de durer, parce qu'ils ont l'impression qu'on les attend, quand en fait il vaut mieux qu'ils s'arrêtent, ça suffit pour eux, ça a été suffisamment exigeant sur le plan émotionnel pour que l'exercice puisse être interrompu, quoi.
Oui, en fait, vous mettez un peu dans les conditions, ça me faisait penser ce que vous disiez aux escape games, mais vous enlevez quand même la pression de il faut finir vite, il faut être dans les temps, il faut répondre à certaines attentes. En fait, c'est pas tout à fait la même situation.
C'est pour ça qu'on disait que dès le départ au briefing, vraiment, on essaye de poser avec eux un cadre ultra sécuritaire et de leur dire que voilà. Peu importe la prestation qu'ils vont faire, ils seront ni jugés, il n'y aura pas de notes à la fin. Enfin voilà, on essaie vraiment de mettre un cadre pour eux sécur.
Et alors, on comprend bien, là, vous expliquiez que la simulation, ça permet d'apprendre des gestes techniques en situation. Par exemple, l'exemple que vous donniez d'une situation critique très particulière qu'on apprend à vivre, en fait, à gérer en la vivant une première fois. Mais vous travaillez aussi sur la collaboration pluridisciplinaire, il me semble. Donc, travailler en équipe, ça s'apprend ?
Alors, effectivement, ça s'apprend. Ça s'apprend, ou en tout cas, c'est pas un allant de soi. À l'Institut de formation en soins infirmiers, par exemple, c'est fondamental que les étudiants en soins infirmiers travaillent leur leadership, et notamment l'interaction avec les aides-soignants. Et on leur parle souvent de ce travail en binôme, mais c'est pas un allant de soi. Comment je lui parle, en fait, à l'aide-soignant ? Quel est son niveau de compétence ? Donc, il faut apprendre à se connaître. Et là, c'est pareil, il vaut mieux le faire dans un environnement safe pour tout le monde. Et là, on peut moduler les situations pour qu'ils puissent jouer l'interaction. Et là, pour le coup, on le fait avec beaucoup plus de catégories professionnelles différentes en formation continue avec les mêmes enjeux. Comment l'anesthésiste travaille avec un infirmier anesthésiste, comment l'infirmier travaille avec l'urgentiste au déchocage. Mais ça peut être comment l'infirmière va interagir avec le pédiatre, enfin il y a tout un tas de situations où effectivement il faut absolument que les gens arrivent à définir le contour des différentes professions, le qui fait quoi dans l'action.
Alors je suis assez d'accord avec Sébastien, pour moi le travail d'équipe, il n'y a rien d'inné, c'est plutôt de l'acquis. Dans le travail d'équipe, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du dynamique, de l'évolutif, il y a quelque chose qui est complexe, avec plus ou moins des degrés d'incertitude. On le voit dans les services de soins, aux urgences, par exemple, une situation urgente, une situation de crise peut venir déséquilibrer le travail d'équipe. Voilà, ça s'apprend. Chacun des acteurs a un rôle à jouer en fonction de ses attributs, de ses expériences, de ses individualités, de ces apprentissages, le travail en équipe de par la simulation, effectivement, ça s'apprend.
Ils apprennent aussi à communiquer avec les médecins. En tout cas, en formation initiale, c'est toujours un exercice compliqué. C'est-à-dire que les médecins, globalement, lorsqu'ils sont en stage, s'adressent peu à eux, parce qu'ils sont en formation. Eux, souvent, ne s'autorisent pas à interpeller les médecins, parfois les internes, mais peu les médecins, parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir argumenter, de ne pas savoir répondre, etc. Et là, on leur apprend à développer une forme d'assertivité, finalement, une forme de confiance en soi, où ils vont à la fois se rendre compte qu'il faut qu'ils maîtrisent le contenu, bon, ça c'est à leur charge, hein, mais à la fois aussi que sur la forme, hein, pour revenir sur les propos de Sébastien, c'est-à-dire des propos qui soient respectueux, mais qui soient affirmatifs, des propos qui soient argumentés. Voilà, ça c'est aussi des choses que vise la simulation et qu'ils peuvent développer en formation initiale.
À l'Institut de formation donc de Toulouse, les formateurs les années précédentes ont créé une simulation avec des ateliers de simulation sur les douleurs thoraciques et les crises d'asthme. Donc dispositif qui est là depuis quand même, Corinne, quelques années maintenant. C'est vrai que lors des séances de débriefing, donc où on met donc les étudiants infirmiers en situation de crise d'instabilité, ils s'aperçoivent que le travail d'équipe, ça nécessite quand même des compétences collectives, et c'est pas juste la simple addition d'individualité. C'est vraiment une synergie qui se met en place, et je vais redire ce qu'a dit Sébastien, mais c'est vraiment c'est une compétence qui s'acquiert, en tout cas.
En fait, vous avez, si je ne me trompe pas, tous les trois, un passé d'infirmier. Et ça vous sert pour accueillir ces professionnels, j'imagine. Parce qu'en fait, donc, la simulation, ça concerne tous les corps de santé. Le médecin, quelle que soit sa spécialité, l'infirmier, l'aide-soignant. Et donc, ce travail sur la pluridisciplinarité, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important dans la mesure où il y a des réunions pluridisciplinaires de prise de décision qui sont cruciales. Donc, chacun doit pouvoir être capable de participer à sa hauteur.
Ça, c'est un élément important. Quand on fait des séances de simulation comme ça, interprofessionnelles, c'est important que l'équipe pédagogique, au moment du débriefing, soit aussi dans cette interprofessionnalité. C'est-à-dire que si on est sur des compétences transversales, et c'est l'intérêt de travailler ces compétences non techniques, la communication, le leadership, le followership, mais c'est important, si des fois ça émerge, de pouvoir débriefer un point un peu précis. Et donc ça nécessite d'être de la même corporation. C'est-à-dire que je ne vais pas me permettre de débriefer un médecin parce que je ne suis pas médecin. Sur des compétences transversales, encore une fois, et des soft skills, pourquoi pas. Mais de la même manière, un médecin ne va pas pouvoir débriefer un infirmier parce qu'il n'est pas infirmier. De manière très pratico-pratique, comment ça se passe au lit du malade, je suis désolé, mais le médecin ne le sait pas, au même titre que l'infirmier ne sait pas des choses très très fines sur la profession du médecin. Et donc c'est important que dans l'équipe pédagogique, on puisse le faire. Et donc il faut qu'on soit plusieurs avec des professions différentes.
Petite parenthèse, tout récemment, on a entendu beaucoup parler du centre de simulation dans les journaux surtout, en raison de l'inauguration d'une nouvelle installation high-tech, un dôme de simulation environnementale et neurosensorielle, qui est abrégé SENS. Ce dispositif permet la simulation de catastrophes et donc de mettre les soignants dans ces situations particulièrement stressantes. En quoi c'est utile de stresser les soignants dans leur formation?
Alors, c'est effectivement un dispositif qui est unique en Europe. Il faut aller aux États-Unis pour voir des choses d'aussi grande envergure. Oui, c'est utile et c'est pas malveillant que de stresser. En fait, les soignants, ça reste pour leur bien. Mais on leur explique pareil au moment du pré-briefing. Oui. On leur dit, voilà, aujourd'hui, effectivement, vous n'allez pas vivre une journée comme d'habitude, mais ça permet d'augmenter, encore une fois, l'exposition à cette situation rare ou critique. Bon, à Toulouse, on est bien placé pour parler médecine de catastrophe avec l'usine AZF. Et on imagine bien que pour être préparé, il ne faut pas attendre qu'il y ait une explosion parce qu'il n'y en a pas tous les jours et c'est tant mieux. Mais il faut quand même exposer du coup les soignants. Donc, ce n'est pas n'importe quel soignant effectivement qui vont travailler dans ce type de simulateur. C'est plutôt des urgentistes, des anesthésistes réanimateurs, le service de santé des armées, des gens qui vont se retrouver en première ligne s'il se passe quoi que ce soit. Et malheureusement, l'actualité à cause du risque d'attentat, dès qu'il va y avoir des événements de grande ampleur comme les Jeux Olympiques, il faut se préparer malheureusement à ce qui se passe des choses, non pas qu'on le souhaite, mais pour que les gens soient préparés. Et moi, ce que j'ai dit dans mes ouvrages ou mes articles, c'est que autant on dit effectivement jamais la première fois pour le patient, mais jamais la première fois non plus pour les soignants. On imagine le niveau de stress si on se retrouve directeur des secours médicaux le jour d'AZF, par exemple. Voilà, alors c'est tant mieux qu'il y avait les gens justement spécialistes de la question qui étaient là ce jour-là, mais on n'est pas à l'abri que ça se passe un jour où il n'y ait pas des gens particulièrement aguerris.
Alors, il y avait effectivement à Toulouse le drame de la ZF, il y a plus récemment le drame de Montmeil-Mérard, c'est-à-dire que Toulouse, c'est quand même une ville qui a été durement blessée, durement impactée par des drames, et pour le coup, je pense aux gens qui sont à l'équipe de la CUMP, qui est donc la cellule qui est aussi dédiée à intervenir sur ces situations-là, peu habituelles, mais infiniment dramatiques. Les études prouvent que ces soignants-là, pourtant aguerris, peuvent aussi être victimes de ce qu'on appelle maintenant les traumatismes vicariants. C'est-à-dire qu'ils vont être, eux aussi, impactés par le fait d'avoir vu des situations qui sont terribles, des blessures de guerre, par exemple, des choses que j'imagine même pas, d'ailleurs, mais enfin, bref. Et donc, ces soignants-là, si on veut qu'ils durent, il faut aussi prévenir le stress post-traumatique, y compris chez eux. C'est-à-dire que le stress post-traumatique ne va pas être seulement sur les victimes et les proches, mais aussi sur les professionnels de santé. Alors, donc, il faut bien les aguerrir à ce type de situation.
Alors, ce stress qui est encadré, on pourrait dire, il est utile pour prévenir une forme de stress à venir.
Ultérieur, oui, tout à fait. C'est Keller, oui.
Ça, c'est le modèle du stress de Lazarus et Folkman, c'est le stress transactionnel. Et effectivement, le fait d'exposer des gens, ils vont développer des compétences pour pouvoir agir quand même. Celui qui en parle très bien, c'est dans un ouvrage qui s'appelle Médecin du RAID, vivre en état d'urgence, de Mathieu Langlois. Et lui, il explique que c'est le premier médecin du RAID qui est intervenu dans la fosse du Bataclan. Même si c'était terrible, il a dit, comme ils font des exercices à balles réelles, d'entendre les balles au-dessus de sa tête et tout ça, il a continué à pouvoir faire son travail. Et ça, aux États-Unis, pareil, les militaires, ils appellent ça le drill, c'est-à-dire que je m'entraîne pour après que ça ait une mémorisation musculaire en fait et kinesthésique des choses, et j'arrive quand même à travailler et à surmonter les choses. Donc oui, c'est bénéfique aux gens de les stresser, c'est pour leur bien, mais il suffit de leur dire en fait en amont.
Le cadre sécurise en fait, et c'est un stress qui après ne peut pas être traumatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des participants aux sessions de simulation qui peuvent être traumatisés par ce qu'ils ont vécu ?
Alors, ce qu'il faut, c'est maintenir en fait une sécurité psychologique en permanence. Et c'est pareil, c'est au moment de l'étape du pré-briefing où on l'explique aux gens. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, sans le vouloir, soit réactiver des choses difficiles pour les soignants.
Ah oui.
Voilà, moi j'ai par exemple, sans le vouloir, réactivé quelque chose chez une infirmière qui s'est autorisée à dire là ça va trop loin et elle arrête la séance en fait.
D'accord, oui.
Voilà. Parce que ça, effectivement, on ne peut pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À tout moment, en fait, un participant de simulation peut dire voilà, là, c'est trop, j'arrête.
Alors, c'est vrai que pour le coup, on n'est pas maître de comment les étudiants, en tout cas, ou ceux qui participent à ces ateliers de simulation, comment ils peuvent ressentir les choses, soit pendant la simulation, soit pendant l'étape de débriefing. Nous, on a expérimenté cette année. Un atelier de simulation en lien avec les soins palliatifs et la crise suicidaire aussi qui était déjà voilà, pratiquée au sein de l'IFSI. Pour le coup, il y a des étudiants qui nous renvoient le fait que lors du débriefing, ils ne se sont pas sentis à la hauteur quand ça leur arrivait dans leur propre famille.
Ouais, ça rappelle des souvenirs personnels.
Complètement.
En fait,
et ça les déstabilise totalement. C'est-à-dire que des fois, même, ils quittent la séance de débriefing très attristés et ne se sentant pas à la hauteur de ce qui s'est passé.
Il y a deux aspects. Il y a à la fois, effectivement, alors malgré toutes les précautions dont on peut entourer le dispositif, parce qu'on y fait très attention, et donc on leur dit mettez-vous à l'abri, mettez-vous à l'écart, enfin bref. Mais il y a à la fois en quoi les scénarios qu'on met à leur disposition peuvent venir faire résonance sur leur trajectoire personnelle, et il y a à la fois des étudiants qui ont dit qu'ils étaient volontaires, donc on les a laissés être acteurs et faire dérouler la séquence, et pour le coup, qui effectivement, au cours du jeu, se sont rendus compte, alors à tort ou à raison, en tout cas qu'ils n'étaient pas là où ils pensaient être en termes de niveau de performance. Et donc ça, nous, évidemment, on tente de les rassérénés par rapport à ça, mais parfois, c'est déjà fait. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose entre eux et eux. Ils pensaient qu'ils allaient contrôler ou gérer la situation, et en fait, ils sont débordés, quoi. Donc, on fait aussi attention à ce type-là de profil d'étudiants.
Ça nous est même déjà arrivé d'arrêter une séquence de simulation parce qu'on trouvait que les étudiants étaient en difficulté.
Ah oui.
Et on a arrêté la séquence. Elle a duré 2 minutes, hein, mais voilà, on a dû arrêter la séquence pour ne pas les mettre en difficulté.
Donc, autant on peut stresser les étudiants ou les participants pour leur bien, autant il faut garder cette marge de manœuvre et on peut arrêter à tout moment. On a des acteurs qui ont l'habitude ou des patients standardisés et qui effectivement d'eux-mêmes disent mais là je voyais effectivement dans les yeux du participant que ça allait pas du tout et c'est eux qui arrêtent la séance et on commence le débriefing. Et par rapport à ça et pour déminer tout de suite ce qu'il pourrait y avoir et pas les marquer au fer rouge, on commence toujours le débriefing quand c'est de la simulation pleine échelle et pas de la procédure, mais par une étape d'évocation justement des émotions. Et c'est important qu'ils puissent mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu tout de suite. Voilà, pour faire retomber un petit peu la pression et le stress.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Sébastien Coiraz, Corinne Gruel et Pierre Roda. Merci.
Merci à vous.
Merci. Merci Flora.
C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.